Voilà. Nous, à la Yeshiva, on étudie l'interdit de prêt et intérêt. Vous avez déjà entendu parler de ça? Qu'on n'a pas le droit de prêter entre juifs à intérêt. C'est l'interdit de Necher et de Tarbit. On voit dans la Torah deux mots, Necher et Tarbit. Pas droit de... Dans la paracha de Shabbat dernier, il y avait un passage relatif à cet interdit, qui est un interdit très très important. C'est-à-dire que c'est un interdit, donc l'interdit d'usure globalement. Bien. Et le cinquième chapitre du traité Baba Metzia est un des chapitres les plus célèbres du Talmud, et c'est ce qu'on étudie à la Yeshiva depuis un peu plus qu'un an. Bien. Monsieur me fait l'honneur à venir à certains cours. Voilà. Et dernièrement, donc tu entendras, Abraham, certaines choses qu'on a déjà vues, mais bon, j'essaierai de mettre dans un contexte un peu plus vaste. On a vu des choses extrêmement subtiles, et il me semble que c'est vraiment une... si on veut avoir une idée un peu de qu'est-ce que c'est le Talmud, ce qu'on va voir, c'est vraiment... pour moi, la quintessence de qu'est-ce que c'est le Talmud. Voilà. D'où la question que vous avez peut-être reçue par mail, question idiote.
C'est pas une question, vous n'avez même pas mis le point
d'interrogation. Oui. Vous avez sûrement vu des documentaires sur des gens de Corée du Sud qui s'intéressent au Talmud, vous avez déjà vu ça ?
J'ai entendu parler.
Oui, que... que certaines personnes du staff de Samsung s'intéressent à les sources de l'intelligence et ils se sont rendus compte, paraît-il, que la créativité et l'intelligence étaient, comment dire, c'est-à-dire c'était dans le peuple juif de manière... pas proportionnel à la petite population, des savants, des inventeurs et des créatifs. Et ils ont creusé, mais d'où ça vient ça? Et je ne sais pas comment ils en sont arrivés, c'est l'étude du Talmud. Et des personnes du directoire de Samsung sont allées en Israël pour rencontrer des Talmudistes, sont allées dans des yeshivot, etc. Et ils veulent apprendre la méthode du Talmud pour l'enseigner dans leur pays. Alors, ce qu'on va voir un peu ce soir, c'est est-ce que c'est possible un truc comme ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'étude du Talmud... Bonsoir. Est-ce que l'étude du Talmud est exportable? La question, c'est pas celle-là qui m'intéresse sur le fond, mais en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et donc, on ne va pas du tout voir ça de manière théorique, on va voir ça de manière complètement concrète sur des sujets tout à fait concrets du Talmud. Voilà. Alors, je vous passe des photocopies, je vais vous introduire un peu le sujet. Voilà. Tu n'es plus à Milan ?
Ça y est, je suis rentré.
Ah oui ? Ah d'accord. C'était bien ?
Très bien.
Ben, prenez la photocopie.
Merci.
Bon.
Thierry, il est à Tel Aviv.
À Tel Aviv, bon. On ne peut pas faire les deux à la fois. Ok, alors. Ça, c'est la première feuille et la deuxième feuille. Je vais introduire ça. Hein, je vais introduire ça. Deuxième feuille. Tant qu'à faire la troisième feuille, allez hop, au diable l'avarice. Allez hop, Attention, hein, ça sort à l'examen, je vous préviens. Ah, je vous préviens. Non, mais je suis sympa, je préviens. Alors, donc je disais qu'il y a l'interdit très important de prêter intérêt. Pas seulement c'est interdit de prêter intérêt, c'est interdit d'emprunter un intérêt. Et même, on pourrait dire que l'interdit d'emprunter à intérêt est plus grave que l'interdit de prêter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans les 365 interdits qui se trouvent dans la Torah. Il y a 613 interdits dans la Torah, 248 commandements positifs et 365 interdits. Il y a plusieurs interdits relatifs au pré-intérêt. Il y a plus d'interdits relatifs à emprunter qu'à prêter. C'est-à-dire, on pourrait dire, quelqu'un, voilà, toi, tu as besoin, je ne sais pas moi, tu as besoin, pour joindre les deux bouts, tu as besoin de 3000 euros parce que, je ne sais pas, il y a les huissiers qui vont venir, machin, bidule. Tu as besoin, tu as 3 loyers de retard, 4 loyers de retard, et les huissiers qui vont venir. Bien, tu me demandes, est-ce que tu peux me prêter 3000 euros et je te rendrai dans 4 mois. Je te prête 3000 euros, mais tu me rendras 3500 euros. Ça, c'est interdit d'après la Torah. C'est-à-dire, c'est un interdit, c'est même plusieurs interdits. Pas seulement que c'est interdit de prêter, mais par exemple, la personne dit, je te supplie, prête-moi 3000 euros. Non, je ne te prête pas 3000 euros. Prête-moi 3000 euros, je te rends 3500 euros. C'est l'emprunteur qui supplie de payer. C'est interdit. La base de l'interdit, c'est écrit dans le verset, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. On voit clairement, on ne doit pas se rendre esclave, l'homme par l'homme. C'est un interdit. De se rendre esclave, l'homme par l'homme, c'est interdit. C'est la base de l'interdit. Se rendre esclave, rendre esclave l'autre, ou se rendre esclave, ce sont deux interdits. Pas seulement ça, mais par exemple, des témoins qui seraient témoins à une telle transaction, eux-mêmes participent de l'interdit, transgressent un interdit. Des témoins qui signeraient un tel contrat, eux-mêmes transgressent un interdit de la Torah. C'est écrit, l'otasimoun à l'abnécher, ne met pas sur lui d'intérêt. L'otasimoun au pluriel, c'est pas seulement le créancier, pas seulement le débiteur, mais ceux qui participent, le scribe qui fait le contrat, les témoins qui signent un tel contrat transgressent des interdits de la Torah. Par exemple, quelqu'un dit, moi je suis super pieux, je mange kasher, je fais Shabbat, mais je prête à intérêt, comme on dit en yiddish, pas nicht. Ça se fait pas. D'accord ? Bien. Alors vous allez me dire, si c'est interdit, comment on peut vivre ? Ça, c'est une question intéressante. C'est pas... Parce que toute la vie, c'est du fric. Donc, commençons de manière claire. La vie, c'est le fric. Que les choses... Paul, il faut noter. Attention, il y a quelques aphorismes comme ça, clés. La vie, c'est le fric. Je sens... Donc... Si on n'a pas le droit de prêter intérêt, comment on va vivre? Alors, il y a l'interdit de la Torah et il y a aussi des interdits rabbiniques. C'est-à-dire, dans tous les interdits de la Torah, il y a des barrières rabbiniques. Il y a des barrières rabbiniques. Dans l'interdit de la Torah, l'interdit de la Torah, on va dire les choses comme ça. C'est un interdit fixe, à taux fixe. Ça veut dire, je te prête, je dis que dans le langage du Talmud, je te prête 100 zouz, la monnaie de l'époque, je te prête 100 zouz et tu me rendras 120 zouz, ça c'est l'interdit de la Torah. Maintenant, il y a des interdits différents. Par exemple, je te prête 100 kilos de pommes de terre, tu me rendras 120 kilos de pommes de terre. Ça, c'est le même interdit. Vous comprenez ? C'est soit en espèce, soit en nature. Je te prête 100 kilos de pommes de terre, tu me rendras 120 kilos de pommes de terre. Ça, c'est interdit aussi d'après la Torah. Bien. Maintenant, je te prête 100 kilos de pommes de terre. Mais disons, pour mieux sentir la chose, je te prête une tonne de pommes de terre. Bien. Tu as besoin, je ne sais pas, quelque chose tout de suite, une tonne de pommes de terre. Et dans 3 mois, tu me rendras une tonne de pommes de terre. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment ? Voilà. Les prix fluctuent. Parce que peut-être que la tonne de pommes de terre aujourd'hui c'est 800 euros. C'est au pif. Ouais. C'est 800 euros. Il est possible que dans 3 mois ça soit 850 euros. Donc, finalement, c'est un intérêt déguisé. Pas à taux fixe, parce qu'on ne sait pas les fluctuations du marché. Mais ça peut être un intérêt déguisé.
Oui, comment ? Cet intérêt, on le retrouve aussi quand on prête avec un prêt. Il peut avoir aussi des fluctuations quand on prête avec un intérêt aussi.
Oui, la monnaie fluctue. Alors, ce qu'il faut savoir, tout de suite, ce qu'il faut déterminer, quel est l'étalon, quel est le référent qui va être considéré comme un référent base sur lequel les choses tournent. Parce que si tu vas, par exemple, tu prêtes de l'argent 1000 shekels en Israël et 30 000 shekels, est-ce que le shekel c'est une monnaie ou en vérité c'est des dollars déguisés ? Il y a 30 ans c'était comme ça, les shekels ça n'existait pas, c'était des dollars. Que si tu voulais acheter quelque chose, t'achetais en dollars en vérité. Donc les shekels c'était
Ça peut être peut-être le pouvoir d'achat qu'on aurait en vendant ces 800, ces 1000 kilos de pommes.
Bon. Ça, tout ça, c'est des questions très importantes. Vous vouliez demander.
Et quand c'est une institution, c'est une banque.
Il n'y a pas d'individu. Oui, mais c'est une banque. Bon, si vous voulez, tout ça, c'est des questions. Ce sujet, on comprend très bien que c'est un sujet fondamental, surtout de la structure de l'économie juive, selon la Torah. Bien. Nous allons voir un micro-problème. On ne va pas voir tout le sujet. C'est impossible. Je vous dis, ça fait 1 an qu'on a commencé à étudier. Quand je dis 1 an, j'étudie le sujet tous les matins depuis un peu plus d'un an. Tous les matins, enfin, ça a l'air, sauf le vendredi et le Shabbat. Mais disons, quelques jours de vacances. Mais disons, ça fait grosso modo 1 an que j'étudie le sujet tous les matins. Je ne suis pas le seul parce que j'ai des compagnons d'études. Et on est presque au début du sujet. Hein. Donc, ok. On va voir un micro point. Je continue. Je te vends un frigo. Le prix du frigo, maintenant, c'est 500 euros. Je te le vends 500 euros et tu me le paies en 3 mensualités. Et le total, ça sera 650 euros. C'est un ribite. C'est illicite. C'est illicite, mais c'est interdit rabbinique. On va essayer de comprendre pourquoi. Quand toi tu prends le frigo, au moment où tu prends le frigo, alors regarde, vous avez le brevet des collèges, là, parce que ça va, jusque-là c'est rigolo, mais ça va. Vous avez le brevet des collèges, tu l'as eu ?
Mention.
Alors tu vas pouvoir suivre. C'est bon, si tu as le brevet des collèges, tu vas pouvoir suivre. C'est pas. Ça va être un petit peu truc, mais on va s'en sortir. Bien. Alors maintenant, quand moi je te livre chez toi le frigo, à partir du moment où tu as le frigo chez toi, tu me dois la somme du frigo. Il y a dans la Torah un point très très important, c'est l'acquisition des biens. On appelle, dans le langage juif, les kinyanim. Les kinyanim, kinyan, c'est acquisition. J'acquiers le frigo, c'est-à-dire le frigo arrive chez moi. À ce moment-là, je dois la somme. Si tu me dis, pas de problème, tu as 3 mois pour me payer, mais c'est un peu plus, ça veut dire, je ne te force pas à me payer les 500 euros maintenant, je te les laisse à ta disposition, mais moyennant un plus. Ça, c'est du ribit. C'est quoi ribit? C'est quoi ribit? Le ribit, l'Agma a dit, klala de ribita kol agar natar, ou le principe du ribit, c'est le principe du ribit, c'est payer la mise à disposition dans le temps d'une somme d'argent. Ça, c'est le principe général. Qu'est-ce que la Torah interdit? Monnayer la mise à disposition d'une somme d'argent dans le temps. Dans le langage du Talmud, kol agar natar, c'est un salaire pour le fait de garder chez moi, un laps de temps. Ok? C'est bon. Kol agar natar, c'est un salaire pour la mise à disposition dans le temps, facteur temps. Je paye la mise à disposition du temps. Alors maintenant, moi, je te vends un frigo. Le frigo, il arrive chez toi. Si tu me payes cash, c'est 500 euros. Tu me payes dans 3 mois, c'est 650 euros. D'accord? Je tiens, les prix, c'est pas intéressant, la somme, le principe. D'accord? Bien. Donc là, je te laisse à la disposition. Tu devrais me payer 500 euros maintenant, parce que tu as maintenant le frigo. À ce moment-là, paf, tu dois me payer. Je dis, hop, il n'y a pas de stress. Tu as 3 mois pour me payer, mais on monnaie ça. Donc ça veut dire que c'est 500 euros, finalement, je te les laisse à ta disposition, puisque tu me les dois, et tu me payeras cette mise à disposition. C'est un ribit, mais ça n'est qu'un ribit rabbinique. Pourquoi c'est un ribit rabbinique? Un bonbon, pour celui qui me répond bien. Pourquoi c'est un ribit rabbinique, Rabbi Saïd?
Pourquoi est-ce qu'on peut payer? Parce qu'il a l'usage du frigo pendant les 3 mois?
Non, mais là, il a l'usage du frigo, mais c'est à lui.
Oui.
Il doit 500 euros maintenant. Il doit cette somme.
Est-ce qu'il peut le revendre?
Non, de manière simple, l'explication est simple. L'explication est simple. Si vous avez des photocopies, regardez, je vais vous passer des photocopies pour que vous puissiez suivre.
Une seconde. Super.
Première feuille.
C'est quoi déjà l'interdit coranique déjà?
Ça va bosser, attention. Attention, on n'est pas là, c'est pas. On n'est pas rigolé, mais pourquoi ceci?
Mais Raph, c'est quoi déjà l'interdit thoranique à la base?
Comment?
C'est quoi déjà à la base l'interdit thoranique? Pour pouvoir réfléchir à
la non, mais ça. Oui, l'interdit de la Torah, voilà. L'interdit de la Torah, c'est prêter. C'est ce qu'on appelle en hébreu, en un mot, nous allons travailler sur l'interdit de prêter intérêt. Je résume en deux mots. C'est un interdit de la Torah de prêter à intérêt. C'est quoi prêter à intérêt? Je te prête 100 zouz et dans 3 mois tu me rendras 120 zouz. Ça c'est interdit par la Torah. C'est-à-dire je te prête et tu me rendras plus. Je te prête, tu me rendras plus.
Excusez-moi.
Oui, je te prête, tu ne me rends pas plus. De la même manière, tu dois préparer une bar mitzvah, tu dois faire les chalotes, les gâteaux, les macroudes et j'en passe, et le strudel. Tu as besoin de 100 kilos de farine. Je te prête 100 kilos de farine que tu vas utiliser. Dans 2 semaines, tu me rends 120 kilos de farine, 110 kilos de farine. Oui. C'est-à-dire, tu monnaies le service. La mise à disposition, tu la monnaies pour une disposition dans un certain temps. Ça, c'est interdit par la Torah. Bien. Maintenant, moi, je te vends une voiture. Cette voiture, si tu la payes cash, c'est 15 000 euros. Si tu la payes en plusieurs mensualités, c'est 17 000 euros. Ça, c'est interdit. Mais c'est interdit rabbinique. Pourquoi ?
Parce qu'il y a un objet.
Pourquoi ? Parce que c'est virtuel de dire, que je te mets à la disposition une somme. C'est vrai que tu me la dois, mais je ne te l'ai pas passée. C'est médié par une vente. C'est par le biais d'une vente. Quand c'est par le biais d'une vente, ça devient rabbinique. C'est interdit, mais c'est rabbinique. Les interdits rabbiniques sont très importants. Mais c'est interdit rabbinique. Ce que nous, on va essayer de comprendre, c'est la structure du problème. Do you understand? Oui? Bien. Alors maintenant, on va prendre la Mishnah dans le traité Samer, dans le traité Baba Metzi. Ce que j'ai dit, c'est que le grand sujet de l'interdit de prêter intérêt nous met mal à l'aise, puisque j'introduis par cet hymne, n'est-ce pas? On est d'accord. Oui, ou alors, comme disent...
Comme moi, comme médecin, je ne suis pas d'accord avec
ça. Ah.
Parce que la vie, c'est la santé.
Oui,
bon.
Oui,
mais si t'es malade, il y a un
débat. Il y a un débat.
Si t'es malade et t'as pas de fric, si t'es malade et t'as pas de fric, tu fais comment? Et tu vis aux États-Unis?
Entre prêter avec intérêt et vendre avec une plus-value, elle est un peu floue.
Non. Vendre avec une plus-value, ça, c'est pas que c'est permis. Comme diraient les Chinois, c'est glorieux. Non. La plus-value, regardez, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. C'est que le profit est permis. Moi, je dirais, c'est pas que le profit est permis. On ne fait rien dans la vie s'il n'y a pas de profit. Quand tu bouges pas. Tu as eu, par exemple, le bloc communiste pendant 70 ans. Ça dit, le profit est interdit et banni. C'est inhumain. Tu peux vivre. Tu vis. Voilà. J'amène de la marchandise. Je vends des pommes. Ces pommes, je les ai achetées 50 centimes le kilo. Je ne vais pas les vendre 50 centimes le kilo. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Binéder, je vais me pendre. Si j'ai des pommes à 50 centimes, je vais les vendre. J'escompte les vendre. Il y a le transport, il y a la fatigue, il y a le machin, il y a le bidule. Je vais les vendre 1,10 €. Voilà, ça veut dire, bon, il faut calculer, c'est une science. Vous avez fait HEC, moi j'ai pas fait HEC. Mais, bon, c'est une science, comment le prix, qu'on calcule le prix, le bidule, le machin. Ok. Maintenant. Oui.
Faut zigzaguer.
Bien, maintenant. C'est hyper pratique. Alors,
ils sont imprégnés de Torah, c'est pas
vrai. Alors, ok. Donc, je vends quelque chose que j'ai acheté 80 centimes. Je le vends 1 €. Ok. C'est complètement permis. Ça, c'est complètement permis. C'est pas que c'est bon, c'est complètement permis. J'espère bien que tu vas le vendre avec une plus-value. Yeah. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vendre à crédit. Vendre à crédit avec un intérêt. Ça, c'est interdit, mais c'est interdit rabbinique. C'est quoi interdit rabbinique? Pourquoi? Parce que l'interdit, c'est par le biais d'un prêt. C'est une halva'a. Une halva'a... Non, je sens que ça ne va pas aller.
C'est faire un
mais c'est une autre conférence. Mais bon, c'est pas les mêmes organisations quand même.
Hein? C'est-à-dire qu'on s'est mis au milieu aussi.
On s'est retrouvés là. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis là cette fois?
Sincèrement, c'est pas grave, ça va pas marcher.
Et pourtant, les juifs, ils ont trouvé. C'est ça,
on a une
image? Non, alors.
Oui, moi aussi, ça, depuis tout à l'heure, ça frappe. Bah, c'est pas leur métier.
Regarde.
Là, c'était. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est
il y a une caméra cachée ou quoi?
On a fait un petit tour.
Bien, ok.
On revient dans 3 minutes. Hein.
Bien.
Allez, on respire. Reprends.
C'est bon. Regarde, il y a énormément de questions. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans des problèmes techniques, des problèmes historiques, sociologiques. Je vais vous dire, je m'en fous. Ce n'est pas le sujet, hein, si je peux me permettre. Regardez, on va voir, donc je vous disais, que ces sujets, cet interdit, qui est un point central de la Torah, est étudié dans le cinquième chapitre du traité Baba Metzia. Baba Metzia... C'est peut-être le traité le plus étudié. C'est la base du droit civil. C'est la base du droit civil. Passez. C'est la base du droit civil.
Excusez-moi.
Bien. Alors, vous avez une photocopie d'Av Samer et Amoud Bet. Et nous allons voir une phrase dans la Mishnah. 1, 2, 3, 4, 5e ligne en haut de la page. Il va où ? Donc c'est une Mishnah. Hein, c'est une Mishnah. Il va où ? Al-Sadeo va Marlo. Im iata notelli mikan va tchalosh shanim are isheli are ishelo. Bien. Il lui a prêté en hypothéquant son champ. Pour faire simple, il a emprunté 1000 zouz. Zouz, c'est la moyenne des champs. Il emprunte 1000 zouz à un autre et il hypothèque son champ. Il hypothèque son champ au prêt. Mais le champ, il vaut 3000 zouz. Il vaut 3000 zouz. Et le contrat, c'est comme ça. Si dans trois ans, je ne t'ai pas remboursé, prends mon champ. En contrepartie des 1000 zouz, tu, prospectivement, tu achètes le champ. C'est permis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais il va lui rendre la même somme ? Non, plus.
Ah, c'est plus.
Non, mais sur les 3000.
Ah non ?
Non, on est remboursé.
Non, le truc, c'est comme ça. Moi, je veux bien me prêter, mais je veux un gage. Je veux un gage. Mais le gage, il est beaucoup plus que le prêt. C'est permis.
On n'en sait rien profondément si ça va être. On peut pas être sûr que l'intention c'est de faire un bénéfice parce qu'on n'en sait rien si.
C'est pas inéluctable.
Faire des plus-values.
C'est pas inéluctable. Alors, encore une fois, vous savez, il y a des mots clés quand on étudie le Talmud. Je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens qui s'appellent séfarades. Je veux pas embêter. Mais disons, quand on étudie le Talmud, il y a des fois des mots en yiddish qui viennent. Quand on dit encore une fois en yiddish, on dit nochalmol. C'est comme ça. Le yiddish est une langue qui a été forgée par l'étude du Talmud. Alors quand on étudie, même. Moi j'ai étudié avec un maître marocain à Strasbourg, Rabbi Bitbol, que je pense que tu connais. Mais quand on étudiait avec lui, il mettait des mots de yiddish. C'est pas. Bon, c'est comme ça. Donc on dit encore une fois. Moi, je te prête 1000 zouz, mais je veux les retrouver mes 1000 zouz, tu comprends. T'es sympathique, tu me fais un grand sourire, mais j'y crois pas à tes histoires. Qu'est-ce que je fais ? Je mets la pression. Ton terrain, d'un commun accord, on l'hypothèque. Si dans 3 ans, tu m'as pas remboursé les 1000 zouz, les 1000 zouz que je te prête maintenant sont prospectivement le prix de l'achat du terrain, qui vaut 3000. C'est permis. Et la Mishnah dit Vekar aya baitus benzunim ose al pichamim. Ainsi, monsieur baitus benzunim, faisait avec l'acquiescement des sages. Les sages ont permis à M. Baitus Benzunim de faire comme ça. Alors, le Talmud va analyser plus loin, je vous ai fait passer la deuxième photocopie. Le problème, donc, ici, on va voir comment les modes d'acquisition, comment on peut sceller une telle transaction. Comment une telle transaction peut se sceller? Parce que il y a ce qu'on appelle des kinyanim, des paroles, c'est nul et non avenu. Il faut des contrats et des actes de transaction. Comment peut-on sceller une telle transaction? Alors regardez, la page Samerva, c'est au milieu de la page. La Gemara reprend les mots. Il va où al-Sadehu? Il va où al-Sadehu? Il lui a prêté sur un champ. Alors, Amar Ravuna. Ravuna, il dit. Donc, regardez. Un champ, d'après la Torah, on peut acquérir un champ avec de l'argent. Moi, je te passe 1000 zouz. C'est comme ça. Je te passe 1000 zouz. Tu as 3 ans pour me rembourser. Je te passe 1000 zouz. Tu me rends 1000 zouz. Il n'y a pas de ribit. Ça va. Ta vie est belle. Si dans 3 ans, tu ne m'as pas remboursé, les 1000 zouz que je te passe, prospectivement, c'est la somme d'achat de ton champ. En l'occurrence, qui coûte 3000 zouz. Mais pourquoi on est prêt à se mettre dans un tel contrat? Parce que le type, il a besoin de liquidité tout de suite. Donc apparemment, c'est du ribit. Ou tout au moins, on verra pourquoi c'est pas du ribit. Mais, tout au moins, c'est une clause un peu exagérée. Vous ne trouvez pas un mec qui emprunte 1000 zouz et il s'engage pour 3000 zouz. C'est un peu, comment dire, en Israël, un peu tembel, quoi. Un peu... Le mec...
Ça dépend s'il va investir et qu'il sait qu'il a une très bonne affaire. Il va peut-être...
C'est
ça
juste.
Ça dépend de la condition. S'il a trouvé une super, un super filon, il va ramener 100 000 zouz. Ça vaut
d'accord,
rien.
Mais la vie...
On non, sait mais pas, ça dépend.
On est tous un peu...
Excusez-moi,
no problem. No problem. En baya.
C'est sa gorge,
là. Le roi rapide,
en baya. Alors maintenant... Ok, mais vous savez, je vous donne un exemple, moi que j'ai vécu. Moi, je ne suis pas dans le monde des affaires. Je suis dans le Talmud. Et j'ai voulu faire des affaires, par contre. Ça, oui, j'ai voulu faire des affaires. Et je croyais faire une super affaire. J'ai emprunté à la banque à intérêt. Parce que l'interdit de prêt à intérêt, c'est entre juifs. Entre juifs et non-juifs, il n'y a pas d'intérêt. Bien. Donc, j'ai fait un emprunt à la banque avec intérêt pour quelque chose qui était, comme dit l'autre, in the pocket. Et évidemment, ce truc était in the pocket. Comment ? Ce truc qui était in the pocket a été une catastrophe. Mais la catastrophe, c'est avec des critères qui ne sont pas logiques comment ça a été catastrophique. Le fait est, c'est que j'étais sûr que c'était in the pocket. Donc, c'est, je pense, je suis pas le seul gogo de l'existence. Comme dit l'autre, l'espoir fait vivre. Mais bon, en tout cas, ça arrive, je pense. Je ne suis pas le seul à qui ça arrivait des trucs comme ça. On pense qu'on va pouvoir rembourser la dette et même les intérêts. Et demander à François Hollande, à notre cher Emmanuel Macron et compagnie, alors, la dette de l'État, c'est bon? Oui. Comment dire, le changement... C'est maintenant. Mais j'étais sûr que ça allait marcher. J'étais sûr que ça allait marcher. C'est comme ça, c'est la vie. Donc le mec, il s'engage à une clause un peu exagérée. Alors Ravuna dit, regardez, Amar Ravuna, Beshat matan maot kana akol. Le'achar matan maot lo kana ela keneged maotav. Ravuna, il dit, c'est un maître du Talmud, il dit, quand la Mishnah dit que la transaction est engageante par rapport au champ qui vaut plus, c'est si cette transaction a été faite au moment de la passation de l'argent du prêt. Mais si c'est après la passation d'argent, même si elle est faite, la condition est nulle et non avenue. Alors, attention, bienvenue au monde enchanté du Talmud, les enfants.
Moi,
je
n'ai rien compris.
Oui, comment?
C'est en Sud-Corée, là, vous êtes...
Attendez, détendez-vous, là, c'est... Si j'ai compris, c'est que c'est compréhensible. Non, je blague pas. C'est...
Vous n'êtes pas un peu bourrin,
comment... Quoi? Non, je vous explique. C'est un mode de réflexion que vous n'avez pas l'habitude, c'est tout. Mais essayons de rentrer, vous allez voir, c'est pas mortel. Un petit peu seulement. Alors, vous avez dit la chose suivante. Le truc, c'est comme ça. J'emprunte 1000 zouz, j'ai besoin de ces 1000 zouz. Pour ces 1000 zouz, je suis prêt à hypothéquer mon terrain qui vaut plus que 1000 zouz. C'est un petit peu exagéré, d'accord? C'est un peu exagéré. D'hypothéquer, d'accord, mais hypothéquer plus que la valeur, c'est un peu exagéré. Est-ce que véritablement, dans son cœur, il a voulu un tel engagement?
Qui? L'emprunteur?
L'emprunteur.
Non, puisqu'il pense qu'il va se refaire.
Comment?
Avec...
Il n'avait pas de choix.
Ou parce qu'il pense qu'il allait...
Oui, mais il fait quand même un contrat. Il fait quand même un contrat. Ici, nous allons toucher à une des bases que nous allons travailler là ce soir, des bases de la conception juive d'un aspect du droit civil. C'est que pour qu'il y ait une transaction, il faut que nous ayons la certitude que la personne, quand elle a fait la transaction, elle était entière dans sa volonté de transaction. Si la personne... On peut faire des fois des engagements, mais ces engagements, on les fait pas de manière sincère. Je vous donne un exemple qui va être traité dans la suite. Par exemple, moi, je te parie que la bataille de Marignan, c'était 1516. Ouais. Alors, moi je mets 100 euros sur la table que Marignan 1516.
On peut toujours trouver un moyen.
D'accord, pour... une seconde. Alors, Monsieur Lévy, il dit ça va, les 100 euros, je les ai in the pocket. Il dit moi aussi je mets 100 euros. Il y a des témoins sur la transaction. D'accord ? Bien. Maintenant, on va regarder sur Wikipédia, c'est 1515. Oh merde! Une telle transaction, d'après le droit juif, c'est un débat, entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est un débat comment on tranche la loi. Mais d'après la conclusion légale, une telle transaction est nulle et non avenue. Pourquoi? Même si en vérité, on l'a fait devant témoin et on s'est engagé. Parce que lorsque quelqu'un y parie, on ne parie pas si on n'est pas sûr de son coup. On ne parie pas comme ça pour te faire plaisir, sinon tu lui donnes 100 euros. Ouais. Sauf si je parie avec mon fils pour lui faire plaisir, comme ça, mon fils de 9 ans. Mais à part ça, quand on parie, c'est qu'on est sûr de son coup. Donc on met 100 euros, pourquoi? Pour que l'autre, il déballe aussi 100 euros. Ça s'appelle le poker en français. Ouais, ça s'appelle poker et judaïsme. Alors maintenant, si moi je fais ça, c'est pour que l'autre il mette aussi du fric. Mais si je mets le fric, c'est en vérité, je suis sûr de gagner, sinon je ne parierais pas. Je suis sûr de gagner. Et l'autre aussi. Donc c'est sûr que statistiquement, il y a 50 chances dans un sens, 50%, 50% dans un sens. Mais moi, je suis hors statistique puisque je suis sûr que j'ai raison. D'après la conclusion légale, une telle transaction, c'est du vol. Parce que si finalement, il s'avère que je me suis planté, je n'étais pas entier dans mon cœur, dans la volonté de transaction.
Mais
Mais vous dites ça parce que 1515 est connu.
Non, mais c'est un exemple. Non,
c'est pas ça ma question. Parce que quand vous dites 1515,
par exemple, il y a des trucs, voilà, il y a des trucs au Paris, il y a 37 paris dans la ville.
C'est un jeu, c'est n'importe quel jeu.
Il y a des paris.
Je suis sûr que le bonbon est sucré, je suis sûr qu'il est sacré.
Non, mais il y a des paris. Des fois, il y a des. Vous avez déjà parié. Non, un pari, c'est qu'on est sûr de son coup.
C'est le pari.
Alors, excusez-moi. Donc, dans une. Excusez-moi, Jean-Pierre. Dans un pari, étant donné que chacun est sûr de son coup, il n'a pas. Les sages. C'est un débat. Les sages considèrent. Qui n'est pas ce qu'on appelle au niveau du droit juif pi velibo shavim. Il dit une chose dans sa bouche, que si je perds, je te paye 100 euros. En vérité, au niveau de son cœur, jamais il n'envisageait cette éventualité. Sinon, il ne parierait pas. Étant donné qu'il n'y a pas adéquation entre ce qu'il dit et même l'acte qu'il fait et sa volonté intérieure, si finalement il a perdu, la transaction est nulle et non nulle. C'est un débat entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dit que la transaction est bonne. Pourquoi ? Parce que, au niveau froid, je sais bien que statistiquement, dans tout Paris, il y a 50% de perte, 50% de gain. Donc ça c'est comment dire, assez objectif. Donc si je m'engage dans cette-là, je sais que je peux perdre. Mais la conclusion, c'est comme Rabbi Yehuda. La conclusion, c'est comme Rabbi Yehuda, que quoi ? Que un tel pari, étant donné que la personne s'appuie, si vous voulez, quand on est en face d'une alternative, et qu'une des personnes dans l'engagement se base sur un aspect de l'alternative, en vérité, il pense qu'il n'arrivera pas à l'autre, à ce qui est à ses dépens. Quand bien même serait-il engagé, la transaction est nulle et non nulle. Ça, c'est un débat. Rabbi Yehuda dit que c'est nul, Rabbi Yossi dit que c'est bon. Là, Rabotai, mes amis, j'aimerais que nous méditations sur ce point. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important du droit juif. Est-ce que vous, c'est clair ? Vous voulez dire ?
Oui, juste, du coup, pour revenir à notre exemple du champ. C'était accepté parce que l'emprunteur savait que, considérait vraiment l'option de laisser son terrain à la fin des 3 ans, de la période définie.
Oui, alors ça, la conclusion de la Gemara, la conclusion du Talmud, c'est qu'en vérité, ce que dit la Mishnah n'est pas bon. C'est pas la conclusion, parce que là, il s'est engagé à quelque chose d'exagérer parce qu'il pensait qu'il n'y arriverait pas à cette extrémité. Il espérait. Donc finalement, c'est le concept d'asmarta. Asmarta, sommaire, ça veut dire s'appuyer. Sommaire, c'est je m'appuie. Je m'appuie sur un des deux aspects. Il s'engage à quelque chose d'exagéré. Il s'engage à quelque chose d'exagéré parce qu'il pense que finalement, il amadoue l'autre avec ça, qui lui prête. Mais lui, jamais, j'ai 3 ans devant moi. Comme ça a été dit, ça va, c'est bon. C'est bon. Après, il risque de se casser la figure. Mais on n'y croit pas. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, le Talmud dit que, étant donné qu'il a mal évalué, même s'il a fait un contrat en bonne et due forme, une transaction en bonne et due forme, ce n'est pas engageant. Là, si vous voulez, c'est un premier point que j'aimerais qu'on médite. Parce que c'est un point très très important dans le droit juif. Il faut qu'il y ait adéquation entre l'acte, la parole et le cœur. C'est-à-dire ce que la personne pense. Si vous voulez me demander à quoi ça va ressembler les temps messianiques, si vous voulez me demander, je pense que le Messie expliquera ça à l'ensemble de l'humanité et se rendre compte que Dieu existe. J'exagère un peu, mais est-ce que... Parce que le droit des contrats, c'est... Si la personne, elle n'a pas été... Elle n'a pas été... Il n'y avait pas des policiers qui l'ont forcé à écrire ce papier. S'il écrit ce papier, il sait bien au niveau froid que si dans 3 ans il n'a pas payé, il perd son champ qui coûte beaucoup. Donc au niveau du contrat, j'ai fait un acte de vente, un acte un peu notarié, une transaction d'argent, donc tout y est. Mais les sages nous disent, s'il n'y a pas d'adéquation intérieure, ça invalide. Qu'est-ce que tu me passes d'adéquation intérieure ? C'est-à-dire que même le droit d'argent prend en compte la volonté intérieure des individus. Le formel, il n'y a pas du formel. Il y a une formalisation d'une volonté. Mais s'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas de transaction. Ça, c'est un truc, c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Est-ce que c'est clair ou pas clair ?
Ça ne marche pas entre des gens.
Non, est-ce que vous voyez l'aspect messianique de la chose ?
Ça ne marche pas.
Si vous voulez, là par exemple, il y en a qui veulent dire, oui, l'homme finalement c'est une machine avec des neurones et des trucs. Là, c'est, il n'y a pas que de la machine, là. C'est autre chose. C'est pas la machine.
On ignore si l'autre est en adéquation.
Comment ?
On ignore si l'autre est en adéquation avec le cœur et le... On ne sait pas.
Alors, oui, mais il y a des, si vous voulez, il y a des modèles. Une transaction d'un tel modèle est considérée exagérée et qu'une personne s'engage à une telle transaction parce qu'elle imagine qu'elle n'y arrivera pas. C'est une estimation des sages. Bien. Ça, c'est un élément. Ce sujet... Oui.
Sur la discussion d'Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, si on prend un pari... sur, par exemple, un lancer de pièces qu'il vous fasse. Aucun des deux ne peut être sûr à 100% de gagner.
Voilà.
Auquel cas...
Quelque chose qui est complètement aléatoire. Quelque chose où il n'y a pas d'expertise, mais complètement aléatoire, fait force de loi. C'est-à-dire, le loto, c'est complètement aléatoire. Fait force de loi. Tirer pile ou face... complètement aléatoire, à moins qu'il y ait des mages. Mais a priori, comme c'est complètement aléatoire, ça fait force de loi.
Donc ce serait permis.
Tirage au sort, c'est faisable. Peut faire une transaction par tirage au sort, parce que le tirage au sort est complètement aléatoire. Mais là, la personne pense qu'elle arrivera, parce qu'elle va aller acheter des choses en Chine, elle va les ramener ici, et machin. Ok, bien. La source du sujet se trouve dans la troisième feuille que je vous ai passée, d'Afkouf Samerhet, dans le traité Baba Batra. Traité Baba Batra. Kouf Samerhet, c'est-à-dire 168a. Bien. Alors, c'est la Mishnah en bas. Vous voyez, c'est écrit Matni en gras. Matnitin, Matni en gras. Bien. Mi shepara miksat rovo ve ishlish et shtaro. Va marlo. Imlo natati lecha mikan vatiom peloni tenlo shtaro. Alors je reprends. Moi, je t'emprunte 1000 zouz. Et à l'échéance de la dette, je ne peux te rendre que la moitié de la dette. Donc le créancier, il n'est pas content. Hein. Scrogneux. Alors, on fait l'accord suivant. Encore une fois. Moi, je te prête 1000 zouz. j'aimerais être 1000 zouz sur 6 mois. 6 mois plus tard, je viens, rends-moi les 1000 zouz. J'ai que 500 zouz. Tu me rends 500 zouz. Et on n'a pas un scribe, on est dans l'Antiquité, des papiers, il n'y avait pas du papier, machin. Il n'y avait pas de papier pour faire un reçu. Ce qu'on appelle, dans le langage de la Mishnah, de shovar. Shovar, il n'y avait pas de quoi faire un shovar.
Alors, tous les mots qui sont utilisés aujourd'hui, en fait, Asmarta, tous ces mots-là, Asmarta, ils sont tous dans la banque, tous ces mots-là.
Oui.
C'est marrant, ça, Rébi,
ben, c'est ça, shovar. C'est ceux qui ont construit l'hébreu moderne, ils connaissaient le Talmud, hein, ça c'est sûr. Alors maintenant, le il n'y a pas de reçu. Donc le problème, donc toi tu me rembourses la moitié. Qu'est-ce qu'on fait, l'accord suivant? Je te donne encore 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Le contrat de 1000 zouz, je te le passe à toi. Toi t'es témoin. Qu'il m'a remboursé 500. Si dans 6 mois, il me rembourse les 500, tu déchires le papier. Si dans 6 mois, tu ne m'as pas remboursé les 500, tu me rends le papier des 1000 zouz et je te réencaisse 1000 zouz. C'est permis. C'est permis, si ce n'est un débat entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, que c'est Asmarta.
Donc à la fin, il lui aura donné 1500.
Il lui aura donné 1500 et c'est permis. Pourquoi? Toi, tu connais la solution. Est-ce que quelqu'un peut reprendre le cas? Samuel, reprend le cas, que ça soit clair.
Alors, je suis pas hyper sûr, hein, mais donc, il y a une personne, qui te donne 500 zouz. Au bout de 6 mois, il t'a...
Non, prenons 1000 pour simplifier. Un truc rond pour qu'on voit bien. Toi, tu me prêtes 1000 zouz. Faut visualiser. Okay, si on visualise, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Tu me prêtes 1000 zouz.
Ok.
Et le 1er décembre, c'est l'échéance. J'arrive.
Avec 500 zouz.
500 zouz. Et on n'a pas les possibilités de faire un reçu. Donc, si on déchire le papier. Ouais. Si on déchire. Donc, moi, c'est quoi? Toi, tu m'as prêté. D'accord? Ouais. Si on déchire le papier. Après, je vais te dire, vous comprenez, hein, bien, la confiance règne. La confiance règne. C'est l'école de la confiance. Ok. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque toi, tu m'as prêté 1000 zouz, je te rends 500 zouz. Donc maintenant, je te dois encore 500 zouz. Mais la preuve que tu as, c'est de 1000 zouz. Et moi, j'ai aussi peur que tu me réclames 1000 zouz. Alors, on va prendre une tierce personne qui va être garante de cette histoire, monsieur en l'occurrence. On lui refile le papier. On dit voilà. Tu me redonnes encore 3 mois d'échéance. Et si j'ai 3 mois pour payer les 500 zouz restants. Et je devrais rendre les 500 zouz en présence de monsieur. Si au bout des 3 mois, j'ai remboursé les 500 zouz, il prend le papier, poubelle. Paf, paf. Si dans 3 mois, j'ai pas payé les 500 zouz, il te rend le papier et tu m'encaisseras 1000 zouz.
Il y a marqué quoi dans le papier? Les 1000.
1000.
Ah ouais, c'est nominatif. Et si,
comment? Nominatif. Yes?
Et il peut pas être de mauvais.
C'est permis.
Il peut pas être de mauvais foi.
Comment?
Il peut pas être de mauvais foi.
On met des témoins dans cette histoire. Il y a des témoins. Pour boulonner l'affaire, on met des témoins. C'est licite. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi c'est licite? Là, notre ami Francis, hein, c'est ça. Francis, vous m'avez endormi avec vos bonnes paroles. Là, on dirait, je sais pas moi, le Dalai Lama, je sais pas quoi, pire, le pape. Non, je sais pas, je veux pas vous faire offense. Mais c'est on baigne dans la moralité. On est dans le fric, on n'est pas dans. on n'est pas dans la moralité, on a la parole, bon fou, on est dans le droit. Ici, on est dans du droit.
Soyez
de droit,
façon, c'est... soyez.
Comment?
Et quand il en trouve plus, c'est pour donner.
Alors si vous dites qu'il y a préjudice, tout prêt à intérêt licite alors, or c'est interdit.
C'est ça, c'est la différence.
C'est qu'on est libre encore. On a encore son destin entre les mains parce que. Si on donne tout en temps et en heure, on est encore tranquille. Donc il n'y a pas cette dimension de on est esclave. On est obligé de donner plus.
Bon, t'as gagné à un moment là. C'est très très important ce sujet.
Alors,
je sais pas s'il est très bon, mais il s'appelle Bonbon quand même. Alors, je reprends ce que tu dis. Ça, c'est un point absolument central. Et les grands commentateurs posent la question. Si nous étudions dans le cinquième chapitre de Baba Metsia l'interdit de prêt à intérêt, qu'est-ce que ça veut dire interdit de prêt à intérêt? C'est monnayer la mise à disposition sur un certain temps de l'argent. Ça, c'est le principe. Comment se fait-il que la Mishnah dans le traité Baba Batra nous dise un tel contrat où la personne finalement va encaisser de manière claire plus que ce qu'elle a prêté, c'est licite. Si c'était un problème d'Asmarta, débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qui est un problème d'Asmarta. Si vous êtes sage, on va le voir après. Ou, mais disons que problème de, c'est-à-dire d'alternative non équilibrée soit réglé. C'est licite à titre de ribit, de prêt-intérêt. Comment ça se fait? Puisque la personne, elle a prêté 1000 zouz, elle va récupérer 1500 zouz, in fine. Et Samuel a très bien répondu, c'est la réponse qu'on appelle de Rabbi Yosef Ibn Migash, maître de Maïmonide, grand, éminent talmudiste parmi les talmudistes. Il explique comme ça. Que le cas de la troisième photocopie que je vous passe est complètement différent. Pourquoi? Le cas dont on parle, c'est que jusque à la date idoine, il n'y a aucun intérêt. Passer la date idoine d'une seconde, il banque. Ce n'est pas lié à un temps. C'est ce qu'on pourrait appeler une pénalisation. Une pénalité. C'est une pénalité. Une pénalité. Une pénalité. Par exemple, les impôts, tu as un mois pour payer tes impôts. Si dans un mois, tu n'as pas payé tes impôts, plus 10%. Plus 10%, ce n'est pas bon, parce que plus 10%, ça veut dire... Bon, non, disons 10%. Mais non, maintenant, il ne faut pas que tu l'envies. Tu dois les payer tout de suite. On ne te laisse pas un mois. Tu dois les payer tout de suite. Ça, c'est fait d'une pénalité. Une pénalité, ce n'est pas lié à un espace-temps. Une pénalité, c'est en un instant. Ça, c'est licite. Oui. C'est licite. Et les commentateurs disent, c'est pour ça d'ailleurs que dans la première Mishnah que je vous ai rapportée, d'Av Samer et dans le traité Baba Metsia, si ce n'était un problème d'Asmarta, quand il a dit comme ça, si je ne t'ai pas payé dans 3 ans, le champ est à toi. Mais il prête 1000, il se retrouve avec 3000. Ça ne se fait pas des choses comme ça. Oui, c'est licite. Pourquoi? Parce que s'il avait payé avant 3 ans, il n'aurait eu aucun intérêt. 3 ans plus 1, plus 1 seconde, c'est 3000. Ça s'appelle une pénalité. Une pénalité, ce n'est pas un prêt-intérêt. C'est complètement licite. C'est complètement licite. Maintenant, une pénalité à répétition. Ça veut dire, si je te prête 1000 zouz, je te prête 1000 zouz, tu as 6 mois pour me rembourser les 1000 zouz. Tu as 1 mois pour me rembourser les 1000 zouz. Si dans les 6 mois, tu ne m'as pas remboursé les 1000 zouz, T'as une pénalité de 100 zouz. Tu me dois me rembourser, pénalité de 100 zouz. Et tous les mois, c'est repénalité de 100 zouz. Alors ça, ça sera illicite. Parce que j'appelle ça pénalité, mais là, je te redonne un espace. Je te redonne une échéance. En vérité, si je considère... Regardez, là il faut... Une pénalité est licite, mais une pénalité à répétition est un ribit déguisé. Puisque là, j'envisage la possibilité qu'il y ait encore d'autres échéances. Donc finalement, je te redonne une échéance payée. Bien que j'ai dit le mot pénalité, en vérité, c'est un intérêt déguisé, puisque je te redonne des échéances. Une pénalité seule, c'est pas du ribit. Okay, comme tu as dit, et d'ailleurs, le des grands commentateurs dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté comme ça. Une pénalité, une seule pénalité, ça ne s'appelle pas du ribit et c'est licite. Ok ? C'est bon. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'affaire ne s'arrête pas là. Regardez, reprenez, si vous voulez, le premier texte. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui, complètement. Mais non, no problème.
Merci. Excusez-moi.
Alors, je reprends le premier texte, donc je reprends la cinquième ligne. La cinquième ligne en haut de la page Samoré à Moudbet. Hein? Bien. Il va où Al-Sadehu? Il lui a prêté sur son champ. Va Marlo. Im iatanoten limikan va shaloshani marisheli arishelo vekara yabaitus benzuni mose al-pichacham. Il lui a prêté sur son champ, c'est-à-dire en hypothéquant son champ qui vaut plus que la valeur de la dette. Et il lui a dit, si tu ne m'as pas donné de maintenant jusqu'à 3 ans, le champ est à moi, le champ qui vaut plus. Arei Shelo, c'est à lui. Vekar aya baitus benzunim ose alpichachamim. Et ainsi, monsieur baitus benzunim faisait une telle chose avec l'assentiment des sages. Bien. On a vu, on vient de voir, la différence entre un intérêt et une pénalité. D'accord ? C'est clair. Je reprends l'expression de Rabbi Yosef Ibn Migash, reprise par le Gaon de Vilna, que ici, ce n'est pas lié à un temps précis. Jusqu'à, par exemple ici dans la Mishnah, jusqu'à 3 ans, il n'y a aucun intérêt. Aucun pré-intérêt. Jusqu'à 3 ans, si tu me payes avant 3 ans, il n'y a aucun intérêt. Passer un moment epsilon des 3 ans, ça se transforme en 3 000 zouz. Ça, c'est une pénalité. Et c'est ce que la Mishnah dit. Le champ est à lui. Le Rajbo, Rabbi Shlomo Ben Adaret. Vous connaissez Rabbi Shlomo Ben Adaret?
Non, on n'a pas connu cette chance.
Qu'on appelle le Rajba, prononciation séfarade le Rajba, prononciation ashkenaz le Rajba. Où est-ce qu'il habitait là, un bonbon en lice? Où est-ce qu'il habitait ce brave Rajba ou Rajbo, Rabbi Shlomo Ben Adaret? À votre bon cœur.
En France.
Comment?
En France.
Barcelone. C'était, disons, Milieu du XIIIe siècle, 1240-1250, c'est un des plus grands maîtres de notre tradition. Rabbi Shlomo ben Aderet, élève de Nachmanide, pas que de Nachmanide, aussi de Rabbi Yona de Gérone. La Catalogne, à l'époque, était évidemment un des grands centres du judaïsme, mais pas seulement grand centre du judaïsme, grand centre de l'étude du Talmud. Gérone, Barcelone, c'était des métropoles du Talmud. Le Rajba rapporte notre sujet et dit bien que dans la Mishnah, dans le traité Baba Batra, c'est écrit que la transaction est bonne, bien que le traité de Baba Metzia nous dit que un tel contrat fait force de loi, il dit, mais a priori, c'est interdit de le faire. Parce que ça ressemble à du ribbit. Et c'est là que notre étude va commencer. Mais c'est écrit que c'est bon, pourquoi tu dis que c'est interdit? On reprend.
Non, parce que le prêteur n'est pas du tout sûr de toucher un intérêt.
Donc, on a dit que c'est pas un intérêt.
Non, mais justement, donc ça peut pas être considéré comme un prêt intérêt. Un prêt intérêt, le prêteur, il touche à l'intérêt.
Oui. Alors. Ça, c'est une question importante. C'est un autre débat entre Rabbi Yehuda, entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Je cherche. Le débat est le suivant. Prenons le débat suivant. Je suis un peu désolé, c'est un petit peu technique, mais moi je trouve ça super sympa. Mais bon, c'est vraiment du Talmud. Le débat, c'est le suivant. Je te prête 1000 zouz. Si je te prête 1000 zouz, si dans un an tu ne m'as pas remboursé les 1000 zouz, ton terrain qui coûte 1000 zouz est à moi. D'accord ? Ou alors on pourrait dire comme ça, mieux. Moi je te vends mon terrain qui coûte 1000 zouz. Tu me passes 1000 zouz. Tu me passes 1000 zouz. Et tu as un an pour acheter ton terrain.
Mais là il y a l'usufruit qui change.
Alors c'est un bon moment. C'est le sujet. Encore une fois. Tu me vends, moi je te vends mon terrain. Je te vends mon terrain qui coûte 1000 zouz. Toi tu me passes, je te vends mon terrain qui coûte 1000 zouz et tu me passes 1000 zouz. Bien. J'ai besoin de liquidité tout de suite. J'ai besoin de 1000 zouz. Qu'est-ce que je fais? Je vends mon terrain. Mais on met une clause. On met une clause que j'ai un an pour acheter 1000 zouz de terrain. Donc là, c'est bon, 1000 zouz, tout est cadré. Est-ce que tu as le droit d'avoir l'usufruit pendant cette année du terrain? Est-ce que tu as le droit d'avoir l'usufruit? Pourquoi non? Intérêt, d'accord. Mais si on laisse en l'état, c'est une vente. C'est un intérêt seulement si je rachète, que ça j'annule la vente. Rétroactivement, ça aurait été un prêt. Un prêt, comme lui, il m'a passé 1000 zouz, ouais, je lui rends 1000 zouz, et plus lui, il aura mangé l'usufruit. Mais ça, c'est seulement à l'aspect qu'il le rachète. S'il ne le rachète pas, c'est une vente, c'est pas un prêt.
Mais c'est prévu dès le départ qu'il le rachète.
Comment ?
C'est prévu dès le départ
qu'il le rachète. Non, qu'il a la possibilité de le racheter. Et qu'est-ce qu'il... s'il a les possibilités, s'il a les moyens. C'est un débat. Rabbi Houda dit, grand maître de la Mishnah, que étant donné que c'est un intérêt aléatoire, seulement avec un aspect de la problématique, c'est permis. Malheureusement, le Talmud n'a pas voté comme Rabbi Houda. Je trouvais ça super sympa. Je trouvais l'idée de Rabbi Houda très très sympa. Que si en vérité, on peut s'en sortir de l'alternative, c'est-à-dire, je laisse en l'état, il n'y a pas d'intérêt. Donc finalement, il peut y avoir intérêt, mais je n'étais pas pieds poings liés à cet intérêt. Néanmoins, les sages disent, et c'est la halakha, comme ça que c'était le Talmud a voté par rapport à ce sujet, que jusqu'à nouvel ordre, la halakha n'est pas comme Rabbi Houda. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire jusqu'à nouvel ordre? Il est possible, dans une génération qui pourrait venir, qu'il y ait des sages aussi éminents qu'à l'époque de la Mishnah, et défendraient la thèse comme Rabbi Houda qui deviendrait majoritaire. C'est faisable. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, la halakha n'est pas comme Rabbi Houda. Que bien qu'il y ait un seul aspect du problème, mais dans cet aspect du problème, c'est contractuel que ça soit un intérêt, c'est illicite. Mais dans la Mishnah, il y a deux problèmes. Dans la Mishnah, même pour ceux qui ne tiennent pas comme Rabbi Houda, c'est permis parce que c'est une pénalité et ce n'est pas un intérêt. Néanmoins, le Rajba, grand maître parmi les grands maîtres, et le Shulchan Aruch tient comme le Rajba, que bien que ça soit écrit dans la Mishnah que c'est bon, lui dit je l'interdis. Mais comme on a dit en mai 68, interdit d'interdire. On ne peut pas interdire comme ça. Il faut des preuves pour interdire. Pourquoi? Il dit, il y a une Mishnah plus loin qui dit que ce qui ressemble à du ribbit, c'est interdit parce que j'ai l'impression de faire du ribbit. Prenons un exemple. Tu m'as prêté 1000 euros et je te rends 1000 euros plus une boîte de chocolat. Je te dis vraiment merci, c'est sympa. Ou alors mieux, tu me prêtes 1000 euros, le contrat, je te prête 1000 euros, tu me rends 1000 euros. Je te dis ok, tu m'as prêté 1000 euros, je te rends 1200 euros, merci. C'est interdit rabbinique. C'est pas du tout contractuel. Mais finalement, tu reçois plus que ce que tu m'as passé. C'est interdit. Ça ressemble à du ribbit. C'est un concept. C'est pas du ribbit. C'est pas du ribbit. Ribbit, ça veut dire intérêt, illicite. C'est pas du ribbit. Mais c'est interdit de faire un tel contrat. Car finalement, ça ressemble que tu m'as donné une somme et je te donne plus. En l'occurrence, dans la Mishnah là-bas, tu m'as passé 1000 zouz et je t'ai rendu 1500 zouz. C'est vrai que si ça a été fait, ça n'a pas été du ribbit, mais c'est interdit. Alors, regardez, les commentateurs posent la question. Mais dans la Mishnah que nous avons devant nous, c'est écrit « Et ainsi faisait Baitus Benzonim avec l'acquiescement des sages. » Donc tu vois, c'est un cas de jurisprudence. Qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Shlomo Ben-Adelaide, que c'est interdit parce que ça ressemble à du ribbit, c'est pas du ribbit. C'est écrit que c'est permis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On casse tout ? Nous, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les Coréens, là, avec le Talmud? Non, les pauvres. Non, j'ai pitié. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Talmud? Regardez, là. C'est écrit dans la Mishnah que c'est bon. Notre livre, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte ailleurs. Mais d'où il peut se permettre ça? Il dit, non, la Mishnah, c'est pas écrit que c'est permis. Dans la Mishnah, c'est pas écrit que c'est permis. C'est écrit, c'est pas du ribbit. Dire que c'est pas du ribbit, ça veut pas dire que c'est permis. C'est vrai, à titre de ribit, c'est pas interdit, mais ça peut être interdit à titre d'autre chose. Quand on dit que c'est pas du ribit, ça veut pas dire que c'est permis. C'est pas du ribit, ça veut pas dire que c'est permis. Do you understand? Voilà. Myriam, elle a compris le truc. Ça c'est subtil, vous voyez. Ça c'est subtil.
Et un cadeau supplémentaire, c'est interdit, c'est aussi prohibé.
C'est un débat. Entre Rabbi, entre les commentateurs du Talmud. Est-ce que une somme en plus que je te spécifie pas que c'est pour le service que tu m'as rendu, est-ce que c'est permis? Tosfot pense que si c'est pas explicité, c'est permis. Mais Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch interdit néanmoins.
Donc tout dépend du terme.
C'est vrai. Si par exemple, tu me prêtes 1000 euros, je te rends 1200 euros, tu rentres chez toi, dis-moi, il y a 1200, tu ne t'es pas trompé? Je ne me suis pas trompé. Je n'ai rien dit. Je dis, c'est pour te remercier, c'est interdit. Ça, c'est d'après Tosfot. D'après Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, même si je ne le spécifie pas, c'est interdit. Là, si vous voulez, il y a des protections par rapport à... Finalement, il a eu 1000 euros, il a rendu 1200. Mais
c'est pas pareil. C'est pareil pour le frigo. Si vous avez dit tout à l'heure 500 euros, on le vend à 650. Et si, dès le départ, on intègre 650 et on les divise en 3, il n'y aura pas de ribite.
Oh, vous êtes brillant. Il y a un avis, Rabbi
Nachman. Non, mais sérieusement.
Non.
C'est cachère?
Je ne sais pas. Merci. Il y a un avis qui dit ce que tu dis. Il y a un avis qui dit ça. Que puisque dans la vente, il y a un avis, Rav Nachman, dans le Talmud. Non, vous voyez, c'est hyper subtil. C'est très très bien, madame. C'est très très bien. Là, comme on a dit au départ, qu'un ribit, qu'un intérêt, mais par le biais d'une vente, ça ne s'appelle pas un intérêt, c'est un crédit. Une vente à crédit. C'est interdit rabbinique. Mais il y a un avis qui dit que si dès le départ, je te dis, chez moi, c'est échelonné dans le temps, c'est 650. Je ne t'ai pas dit c'est 500 cash. Il y a un avis qui dit que c'est permis. C'est un débat. Est-ce qu'on tient comme cela ou non? Mais qu'est-ce que je vous amène là ce soir avec ces choses techniques? Que dire le texte dit quelque chose. Dire c'est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit que Baitus Benzonim il faisait comme ça. Donc si c'est écrit que Baitus Benzonim faisait comme ça, ça veut dire que c'est permis, c'est un cas de jurisprudence. Il faut comprendre que le Rajba explique la Mishnah pas comme ça. Ils ont permis à Baitus Benzonim, il est possible, et j'ai des preuves à ça, dans le traité Psachim, que Baitus Benzonim c'était le Rothschild de l'époque. C'était le Rothschild de l'époque. Rothschild, ça veut dire... C'était, je vous donne un exemple. Jouer du piano ou du violon Shabbat, est-ce que c'est permis ou interdit? C'est un interdit rabbinique. Pourquoi? C'est pas interdit d'après la Torah. Mais Chaim, c'est un interdit rabbinique. Pourquoi? De peur qu'il y a une corde qui se casse, on la remplace. La remplacer, c'est un interdit de la Torah. C'est le taken mana, c'est un interdit de la Torah. De la même manière, le piano, il est désaccordé, l'accorder, vous voyez, ça devient un interdit de la Torah. Donc, de peur qu'on répare l'appareil, l'instrument, c'est interdit de jouer. Bien. Donc, c'est un interdit rabbinique. Imaginez, par exemple, à l'époque, à l'époque de Louis XIV ou des choses comme ça, il y avait les seigneurs, ils mangeaient, il y avait des musiciens pendant qu'ils mangeaient, il y avait des musiciens. Si tu n'avais pas des musiciens qui jouaient pendant ton repas, tu n'étais pas un seigneur. C'est le quatuor, machin, bidule, pardon. Imaginons le baron de Rothschild en 1840. Il y avait à Francfort sur le Main au 19e siècle une branche des Rothschild qui était très 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 religieux, très respectueux des mitzvot. Il est dans son château à Francfort sur le Main et il respecte Shabbat. Mais c'est Rothschild. S'il n'a pas un quatuor à cordes qui joue les danses hongroises de Brahms, ce n'est pas un Rothschild. Quand même, on t'amène le tchoulint avec un quatuor à cordes. Alors, finalement, analysons juridiquement le sujet. Analysons. Jouer d'un instrument de musique, c'est interdit rabbinique. Un non-juif n'a pas l'interdit. Qu'un non-juif fasse un travail pour moi, c'est aussi un interdit rabbinique. Finalement, demander à un non-juif qui joue de la musique pour moi, c'est un interdit rabbinique sur un interdit rabbinique, dans des cas d'exception, pas grave, des cas d'exception, ça peut être permis. Ça peut être permis. Évidemment, en vitesse de croisière, on ne permettra pas. Parce que si tu permets, on va dire, voilà, on a joué de la musique chez M. Cohen, après tout le monde va jouer de la musique eux-mêmes, ils ne vont pas demander à un non-juif. Donc, on interdit. Mais on peut imaginer que M. le seigneur Rothschild, le baron, Herr Baron von Rothschild, que le tribunal rabbinique de Francfort, exceptionnellement, l'ait permis. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit rabbinique. Donc finalement, quand la Mishnah dit qu'ils ont permis à Baltus ben Zonim, ce n'est pas une preuve que c'est permis, c'est une preuve que ce n'est pas un interdit de la Torah. Peut-être qu'à lui, ils l'ont permis parce qu'il s'appelait M. Baltus ben Zonim et que finalement, c'était un interdit rabbinique. Donc dire qu'ils l'ont permis à lui, ça ne veut pas dire que c'est permis. À lui, ils l'ont permis. Mais c'est la preuve que c'est un interdit rabbinique. Si ça avait été un interdit de la Torah, il ne l'aurait pas permis. Donc, c'est la preuve que c'est un interdit rabbinique. Donc, ce n'est pas une preuve que c'est permis parce qu'ils l'ont donné. Do you understand? Alors, les mecs, là, ça c'est du Talmud, vous voyez. Comment trancher du Talmud? Il faut une subtilité extraordinaire. Il faut... est-ce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les transhumanistes. Vous avez déjà entendu parler des transhumanistes? C'est mon dada à moi. Tu connais les transhumanistes? Il y a actuellement, c'est à la mode. Il y a monsieur Luc Ferry, il a écrit un livre, Le transhumanisme. Je conseille ce livre parce qu'il donne beaucoup de... C'est un document... Vous connaissez, mademoiselle, ce livre de Luc Ferry sur le transhumanisme?
Oui, j'ai entendu une interview, je ne sais pas.
Voilà, donc aujourd'hui on parle beaucoup de ça, mais c'est important. Il y a, par exemple, il y a un Israélien, évidemment un Israélien, évidemment, qui s'appelle Yuval Harari. Vous avez aussi entendu parler Yuval Harari? Je note, parce que c'est vraiment, comme dit l'autre, up to date. Ce Yuval Harari, c'est un paléontologue spécialiste des fouilles archéologiques de l'homo, l'australopithèque, machin, bidule, ok. Et sa thèse, c'est que depuis quelque temps, il y a l'homo sapiens, mais l'homo sapiens passe à autre chose, et que maintenant, il y a une osmose entre une nouvelle espèce, il y a eu l'homo faber, l'homme qui commence à faire des cailloux, l'homme qui travaille, des cailloux cassés, etc. Une osmose entre l'homme et l'outil. En vérité, nous, c'est l'homme et l'outil. On est tout le temps. Là, je parle, j'ai un outil dans la main. Voilà. Donc, il y a quelque part, nous, on est l'homme et l'outil. Mais maintenant, on passe à une étape de nouvel être qui nous pose entre l'homme, la machine et l'informatique. Une osmose. Comment, en termes informatiques, peut-on traiter une étude comme on a faite là ce soir? Je me demande. Personnellement, je pense que ce n'est pas possible. Je lance le débat. Peut-être que vous êtes plus dans l'informatique que moi.
Quand même, le raisonnement algorithmique, c'est aussi une forme d'algorithme.
Très mathématisé. C'est très mathématisé.
Comment?
C'est très binaire.
Alors, est-ce que je veux prouver que c'est pas binaire? Voilà.
Ben, c'est quand même. Hein.
Justement, c'est pour ça que je vous ai pris des cas extrêmement concrets, extrêmement précis. Que lorsqu'on dit que le Rajbo, il y a plein, on a vu trois textes. Ces trois textes disent que c'est permis. Le Rajbo prouve, non. Dire qu'ils ont permis à Baitus Ben Zunim n'est pas la preuve que c'est permis. Je peux te dire même que c'est la preuve que c'est interdit. Mais à lui, ils ont permis. Parce que sinon, ils ont dit, les sages permettent, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Baitus Ben Zunim? Comment tu peux mettre ça en algorithme? Je peux te le lire comme ça, je peux te le lire comme ça, ça dépend comment tu le lis. Je peux te dire comme ça, je peux te dire comme ça. C'est une évaluation, cette évaluation. Elle est aléatoire quelque part.
Ils arrivent à mettre les échecs par algorithme.
Comment?
Les informaticiens, ils arrivent à mettre les échecs. Les échecs, c'est plus. Mais les échecs, c'est des milliards.
C'est des stratégies.
Des stratégies,
hein. C'est
stratégie.
Voilà. Alors, regardez, pour terminer, on va voir la troisième feuille que je vous ai passée. La troisième feuille, je reprends parce que c'est le problème extrêmement important d'Asmartha. Le problème d'Asmartha est un problème très important. Je reprends le texte. Mi shepara miksat chovo, celui qui a payé, qui a remboursé une partie de sa dette, mais ishlish et shtaro, il a passé à un tiers le contrat de dette, et il lui a dit, si je n'ai pas donné, imlonatati lecha mikal vadiom peloni, si je n'ai pas donné de maintenant jusqu'à tel jour, tello shtaro, rends-lui le shtar au créancier, pour encaisser toute la dette, sachant qu'une partie avait déjà été encaissée. Igiazman velonatan. L'échéance est arrivée, il n'a pas remboursé le reste de la dette. Rabbi Yossi Omer iten, Rabbi Yuda Omer lo iten. Rabbi Yossi dit, il donne le contrat au créancier, donc il encaisse toute la dette. Rabbi Yuda Omer lo iten. Rabbi Yossi, il ne donnera pas. Gemara, Bemaï Kamefagé, sur quoi porte le débat? Rabbi Yossi, ça va, Asmartha Kanya. Rabbi Yossi pense qu'une Asmartha fait acquisition. Rabbi Yehuda Savar, Asmartha Lokanya. Rabbi Yehuda pense, l'Asmartha ne fait pas acquisition. Encore une fois. Moi, j'ai emprunté 1000 zouz. Aujourd'hui, je rembourse date terme du prêt. Je ne te rembourse que 500. Toi, tu n'es pas content. Toi, tu dis, ok, moi, je veux une garantie que tu me rembourses le plus. Qu'est-ce que je fais? Le contrat des 1000 zouz, je passe à lui. Si dans 3 mois, je te rembourse les 500 zouz, il déchire. Je n'ai pas remboursé les 500 zouz. Ouais, il donne le papier et tu m'encaisses les 1000 zouz. Ça fera au total 1500 zouz. Est-ce que les 3 mois suivants, étant arrivé à terme, est-ce qu'il lui donne ou non? Rabbi aussi dit, il donne. Pourquoi?
S'il n'a pas remboursé.
Mais pourquoi le débiteur, il s'est engagé à ça? Il s'est engagé à quelque chose qui avait une grosse pénalité. Il s'engage, mais il espère ne pas y arriver. C'est pourquoi je prends une telle pénalité? Parce que j'espère, l'espoir fait vivre. D'accord? Mais il y a le principe de réalité, le, comme dit l'autre, le principe de...
L'espoir meurt désespéré.
Voilà, il y a l'espoir et la réalité. Ouais. Néanmoins, les sages considèrent que lui s'engageait, mais il n'était pas dans son cœur, ce n'était pas équilibré 100%. Donc, c'est pas équilibré 100%. Ça pas fait... D'après Rabbi Yehuda, ça ne fait pas force de loi. D'après Rabbi aussi, ça fait force de loi. Quel est le débat ? C'est un débat énorme dans le Talmud, dans le droit civil juif, droit hébraïque, que c'est un contrat. Je sais, d'un point de vue formel, je sais que d'un point de vue formel, les deux sont possibles. Puisque je sais que les deux sont possibles et que je m'engage, je suis engagé, même à mon désavantage. Ça, c'est Rabbi aussi. Rabbi Yehuda dit, une formalisation, ce n'est pas soutenu par un acquiescement intérieur franc, même s'il y a une formalisation, cette formalisation ne fait pas force de loi. Regardez la suite du Talmud, qui est très, très intéressante. Mais Mike avait fait, Rabbi aussi, ça va à Smarta Kanea, Rabbi aussi pense qu'une telle transaction fait force de loi. Rabbi Yehuda Savar Smarta Lokanya, une telle formalisation ne fait pas force de loi. Amar Rav Nachman, Amar Rababa Ravu, Amar Rav, beaucoup de maîtres disent au nom de Rav, grand maître du Talmud, Alaha qui Rabbi aussi. L'Alaha est comme celui qui dit que ça fait force de loi. Qui a tous les camés des rabbis amis, Amar Lehu. Quand une affaire comme ça venait devant Rabbi Ami, qui était un grand maître, Rav, il était à Babylone, Rabbi Ami était en Israël, il leur disait, les Rimara chez Rabbi Yochanan Melamdenu, Pam Rishon Ashni Alara qui Rabbi aussi, Ani Ma Ese. Rabbi Ami dit, vous savez, mon maître, Rabbi Yochanan, toujours il a dit que la Alara c'est comme Rabbi aussi, que ça fait force de loi, même si ce n'est pas complètement équilibré dans son cœur, ça fait force de loi. Et le Talmud conclut, mais la conclusion, l'alakha n'est pas comme Rabbi aussi. Je me suis posé la question. Donc ça veut dire, au niveau historique, dans la Mishnah, l'alakha est comme Rabbi aussi que Asmarta Kanya. À l'époque de la Mishnah, le droit était... Dans ce débat, la halakha était comme Rabbi aussi qu'une telle transaction, on pourrait dire un pari quelque part, fait force de loi. La génération après la Mishnah, Rav, en Babylone, à Babylone, en Irak, Rabbi Yochanan, en Israël, première génération post-Mishnah, disait la halakha c'est comme Rabbi aussi. Que ça fait force de loi. Trois siècles après, quand ils ont rédigé le Talmud, donc vers 450 de l'ère commune, ouais, ils ont tranché. L'alaha, c'est que n'est pas comme Alaha, la loi n'est pas comme Abus. Avec mes élèves, j'ai beaucoup discuté. Comment ça se fait qu'il y a un bras de fer, si vous voulez, un bras de fer, comme on tranche, comme Rabbi Yossi, paf, pas comme Rabbi Yossi. Comment ça se fait? On voit ici que le Talmud veut aller dans le sens que, d'ailleurs, vous ressentez qu'un tel contrat, puisqu'il s'est engagé et l'a formalisé par une transaction, ben ça fait force de loi. Il est engagé. Mais le Talmud, in extremis, dit, nous ne voulons pas que la halakha soit comme ça. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils argumentent même pas. J'ai pas de preuve à ce que je dis. J'ai pas de preuve. Mais je propose la démarche suivante. que lorsque le peuple juif n'est pas tellement en exil. Ça, Mishnah, Rabbi Yossi, etc. Première génération de la Mishnah, c'était encore pas très loin de l'époque du temple de Jérusalem. On n'était encore pas tellement en exil. Dans un tel débat, si la personne, elle sait qu'elle risque de perdre, ça peut être invalidant pour elle, elle s'y est engagée, elle espère ne pas y arriver, mais quand même, rationnellement, elle sait que. Donc, ça fait force de loi. Mais, quand ils ont scellé le Talmud, vers 450, ils ont terminé de rédiger le Talmud. Et le Talmud, ça sera, on pourrait dire, la source de judaïsme, on peut se... Ça veut dire, par exemple, on veut... Il y a l'assimile de Mexicains. Alors, vous allez au Mexique, vous prenez l'assimile, méthode d'assimile, ouais, après le Mexicain, machin, un Mexicain, basané, voilà. Vous voulez apprendre le Mexicain, méthode assimile, machin, pour apprendre le Mexicain. Maintenant, vous voulez apprendre qu'est-ce que c'est l'âme juive, on pourrait dire. Qu'est-ce que c'est on dirait Yiddish, Yiddishkeit, qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est le judaïsme. C'est quoi? Ah, le truc, il faut mettre les doigts dans la prise du Talmud. Voilà. Mettez les doigts dans le Talmud et vous saurez qu'est-ce que c'est l'âme juive. Et ça, on va être en exil. On va être parmi des nations qui ont leurs droits, qui ont leur juridiction, qui ont leur système de loi. Alors, jusqu'à nouvel ordre, un tel contrat ne fait pas force de loi dans le droit juif. Pour savoir que le droit, ce n'est pas que du formel. Le droit, il y a quelque chose derrière le droit. Le droit, une formalité, n'est soutenue que... Je pense que même dans le droit français, ça existe. Que des fois... Quelqu'un s'engage à quelque chose, mais comme c'est trop exagéré, ça ne va pas l'engager. Ce n'est pas engageant. La personne peut le faire, mais ne soutient pas son engagement par une volonté. Qu'est-ce qui soutient un engagement? C'est une volonté franche. Jusqu'à nouvel ordre, il faut que ça soit transmis de génération en génération. Que la base du droit, c'est la volonté de chacun qui soutient. On va dire en langage un peu blabla. C'est l'homme qui est derrière. C'est l'humain qui est derrière. C'est pas le formel. Et c'est l'humain qui est derrière qui lui fait force de loi. De la même manière, le texte, on appelle le texte, c'est la loi orale. La loi, c'est écrit. C'est pas écrit. C'est le talmudiste qui est derrière qui lit le texte. C'est le talmudiste qui fait force de loi. Ce n'est pas le texte qui fait force de loi. Ça dépend comment tu lis le texte. Ça, c'est ça qui se transmet dans notre tradition. Là, on a fait un exemple vraiment sur texte, avec des cas précis. On voit que pour estimer ces cas, d'abord, il y a des discussions. Et comment estimer, comment pencher dans cette discussion le texte? Tu peux le dire comme ci, tu peux le dire comme ça. C'est la subtilité, finalement, du talmudisme qui va faire pencher dans un sens plutôt que dans l'autre sens. C'est pas le texte qui fait loi. C'est l'humain qui donne un souffle à ce texte qui, lui, va être le législateur. Oui, Samuel, tu voulais dire?
Non,
mais on est entre nous.
Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi le fait que, au départ, c'est quand même dans la Torah que c'est écrit que tu ne feras pas de prêt à intérêt, et que ça a une raison, que c'est une vérité pour la Torah. On dit toujours, je crois que vous le répétez dans vos cours de temps en temps, que c'est dans la Torah, c'est parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est dans la Torah que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que c'est dans la Torah. Et donc, le derrière, c'est aussi une manière de comportement que la Torah veut nous enseigner.
Oui, je comprends. C'est pas forcément une formalité, un formalisme, mais c'est un comportement que la Torah veut nous éduquer. C'est ça ce que vous voulez dire?
Ouais.
D'accord. Ok, bon, on a vu...
Une question, oui, c'est oui, ce qui me tarot depuis, je n'ai pas le temps.
qui fait la loi quand on décide que la Rabbi X ou Rabbi Y a raison? Qui vote? C'est comment ça se passe? Pratiquement dans le din, s'il y a un din, il y a un vote.
Oui, alors il y a eu dans le Talmud, il y a plusieurs époques où ils ont voté.
Et dit finalement on garde ça à la fin.
Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Lorsque Rabbi Oudanassi a rédigé la Mishnah, il n'était pas dans sa chambre monacale à trancher. C'est tout un collège. C'était des discussions avec beaucoup de chachamim. Et pour décider, on va mettre telle conclusion dans la Mishnah ou non, on vote. On vote. De la même manière, quatre siècles après, quand ils ont rédigé le Talmud, donc en Irak, c'est en Irak, et comme je l'ai dit la semaine dernière, ils ont rédigé à Fallujah, là où il y a les batailles, etc. Ouais, parce que Fallujah c'était en araméen, c'est Pumbadita, grand centre où le Talmud a été rédigé, pour faire simple. Eh bien, c'était l'époque de Ravaché, le grand maître à l'époque, le grand Roche Shiva de Babylone, c'était Ravaché. Et quand ils ont rédigé le Talmud, c'était pareil, c'était des grandes réunions, et ils ont voté, nous votons, en l'occurrence, ils ont voté, pas comme Rabbi aussi. Et jusqu'à nouvel ordre, on suit donc ces conclusions du Talmud. Encore faut-il les interpréter.
Mais à la fin, la Gemara, elle dit finalement, on garde cette proposition. Elle le sait clair.
Alors maintenant, en quoi cette décision du 5e siècle de l'ère commune nous engage, nous, 1500 ans après? Ça, c'est un autre débat très important. Je ne veux pas faire comme ça, mais j'ai écrit sur notre site internet un grand texte. En quoi ça nous engage, nous? Selon quel procédé juridique ça fait que nous, on est engagé par les conclusions du Talmud? Bon, c'est un grand débat, c'est un autre débat. Ok, bien, merci. Merci à vous. Merci.